Au gré du temps, passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Elle aurait pu faire carrière en chant lyrique, domaine dans lequel elle a étudié avec beaucoup de rigueur. Mais à sa troisième année universitaire en musique, volet enseignement chant et piano, un professeur lui demande de devenir sa pianiste et assistante en chorale. Elle l'accompagnera pendant plus de 5 ans et apprendra énormément à la côtoyer. Sa principale découverte, probablement, la prise de conscience de sa créativité, entre autres en mettant, quelques années plus tard, en musique, des textes du poète Gilbert Langevin. Et on a aussi le plaisir d'accueillir le neveu de Gilbert Langevin, Jérôme Langevin, qui accompagne France Bernard. Vous êtes un couple dans la vraie vie aussi.
Oui.
Il faut bien le dire. Il n'y a pas que la musique, il y a le courant amoureux qui vous traverse.
La vraie vie, pour France, c'était quelque chose d'un peu difficile. Elle avait une approche du quotidien qui était problématique.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est-à-dire que pour moi, je vois le quotidien.
Je vois France là, qui fait des yeux. Là.
Non, mais on parle de créativité. Le quotidien, c'est le matériau duquel on part pour inventer sa vie.
Oui.
Mais on peut avoir l'impression que le quotidien est fait de répétitions, de routines, et que forcément, il nous amène à oxyder une relation amoureuse.
Oh là là!
Est-ce que c'est toujours, il est profond.
Est-ce que c'est toujours aussi cartésien quand vous parlez d'amour?
Non.
Non, seulement à la radio.
Seulement à la radio, j'espère. Mais n'empêche qu'il y a eu entre vous cet éclair de je ne sais pas comment le qualifier, mais à travers les textes de Gilbert Langevin, il y a eu une rencontre formidable qui s'est effectuée. La semaine dernière, vous nous en parliez. Il n'en demeure pas moins que vous êtes issu quand même d'un environnement familial où la rigueur était quand même de mise. Vous avez appris le piano très jeune.
Oui.
Vous avez eu droit aussi à une bien bonne samaritaine.
Oui.
On peut mentionner son nom.
Oui, Yolande Godreau. Parce que ma mère, on n'était pas riches. Alors, elle a déboursé aucun sou, ma mère, pour mes 10 ans de piano que j'ai fait dans une école de musique à Jonquière et 7 ans de violoncelle au conservatoire.
Quand même!
Ouais. Et des chœurs musicaux tous les étés. Alors oui, c'était comme une mécène hein, pour moi. C'était formidable. Ma mère, elle me disait toujours « Va donner un bec à Mme Godreau. » Après chaque concert, elle était toujours là.
«
Va dire bonjour Mme Godreau. Embrasse Mme Godreau. » Ah oui!
Mais malgré toute cette rigueur et cette discipline que vous mettiez à apprendre la musique, il y avait un environnement des frères qui, eux, étaient peut-être un peu plus plein air.
Plein air?
Non.
J'ai eu toutes sortes de frères, disons. Ils ont fait tous les mauvais coups avant moi, là, je dirais.
Mais vous avez quand même fait du plein air avec vos frères.
Du plein air, vous voulez dire?
La pêche.
Ah, ben oui.
Vous évadez la nuit pour aller à la pêche.
Tout à fait, tout à fait. Mon frère le plus jeune, on partait à la pêche au Mont-Valin. On partait pour voir le soleil se lever. Oh, oui, oui, oui.
Elle fait plus cela, hein, Jérôme, maintenant?
Non, je ne me lève plus pour voir le soleil se lever.
Non, mais elle apprécie le voir se coucher. Je veux dire, et ses reflets également sur les ruisseaux. Dans la forêt, elle est toujours aussi
sensible à votre environnement.
Ah ben oui, comme je disais, on a été élevés dans la forêt, en arrière, là, chez nous, ma mère, les soupers en dessous du sapin, les ruisseaux, les pique-niques.
La bonne chanson à travers tout ça, autour du piano.
Beaucoup de musique, beaucoup de fêtes. Mon Dieu, qu'il y a eu des fêtes chez nous.
Donc, une belle enfance.
Une belle enfance, oui. On va pas élaborer.
D'accord.
Mais oui, oui, c'est une famille...
L'adolescence plus difficile, mettons, comme c'est souvent le cas.
Oui, c'est ça. C'est une famille avec son lot de petits soucis. Et puis, une famille simple, toute simple.
Si Gilbert Langevin vivait encore, il vous dirait « dites-moi » et vous reprendriez ces mots et vous les mettriez en musique. Et c'est ce que nous allons faire.
Quelle est cette soif de malheur? Dites-moi. Est-ce un mal inconnu, est-ce un filet d'ennui qui s'empare de mon cœur, dites-moi. Est-ce pure ironie, est-ce destin maudit? Si le bonheur me fuit, si la misère me suit, dites-moi, dites-moi, dites-moi. Est-ce le froid du nord, est-ce l'ombre des morts qui me pousse au remords? Dites-moi. Est-ce par désespoir, est-ce à cause du soir qu'on ne veut plus rien voir quand on voit tout en noir? Dites-moi, 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 dites-moi. Est-ce à la fin des nuits, est-ce au bout de l'exil qu'on trouvera la paix, qu'on trouvera la joie? Dites-moi, dites-moi.
Bernard, qui est avec nous, en compagnie de Jérôme Langevin. Dites-moi, on pourrait poser beaucoup de questions à partir de ces deux mots. Dites-moi, mm-hmm. Si vous aviez à raconter ce que vous souhaiteriez, parce que là, vous venez de poser, je dirais, quelques pierres de fondation en prenant des textes formidables, ceux de Gilbert Langevin, en y mettant une musique qui est quand même difficile à classer, mais qui colle tellement bien. Mm. Vous nous avez expliqué un peu la genèse de cet aspect créatif. J'imagine que ça ne s'arrêtera pas là.
Du Gilbert Langevin?
Ou d'autres
poètes? La chanson
ne
s'arrêtera pas là, c'est sûr. La composition ne s'arrêtera pas là, c'est sûr.
Ce serait quoi c'est vos sûr. Envies là, à ce niveau-là, au plan musical? Est-ce que vous auriez...
La suite? Oui. La suite de Gilbert? Ah, mais j'aimerais écrire. Là, là, je voudrais écrire, moi. France Bernard. Voir où est-ce que je suis rendue, là. J'aimerais ça.
Il y a eu une bougie d'allumage.
Ouais.
L'ambition de faire une œuvre, c'était... On était dans cette quête-là aussi, mais dans ce désir, je veux dire, à tous les niveaux, de nous entourer de personnes, je veux dire, qui étaient attachées au projet et qui avaient de grandes qualités, du preneur de son jusqu'à la personne qui faisait le mixage. Donc, l'album a été réalisé, je veux dire, avec un soin. Et ça, c'était pour moi des conditions pour rendre justice au travail de France. C'est essentiel.
France, comme vous avez étudié le chant lyrique, vous avez quand même gardé un lien très étroit, un lien presque amoureux avec la musique classique.
Mm-hmm.
Vous nous proposez l'Ave Maria de Schubert,
oui.
Interprétée par Kathleen Battle. Est-ce qu'il y a un lien particulier par rapport à cette chanson?
Bien, les Ave Maria, moi je pourrais dire que j'ai été élevée avec les cahiers de la bonne chanson et les Ave Maria. Alors, les Ave Maria, mon père les a tous faits.
Parce qu'il chantait
oui.
à l'église.
Oui. Il chantait dans la chorale, évidemment, mais il chantait, il a fini sa vie en allant chanter dans des centres de personnes âgées. Et les Ave Maria sont dans notre répertoire depuis très longtemps. Et moi, j'ai cinq grands frères, le grand, le bâti, là, tu sais. Et puis, à chaque rencontre de fête de Noël, là, France, chante un Ave Maria, puis ça pleure, là. Ça pleure, tu sais. C'est des chants qui resteront toujours. Si mes frères écoutent l'émission, là, on est très émus par les Ave Maria, vraiment. Et Schubert, c'est un des plus populaires. Et Kathleen Battle, je m'étais dit quand j'étudiais le chant classique que je voulais faire le tour là, du monde puis tout aller les entendre, ces divas. Là. Alors, je n'ai pas réussi à toutes les faire. Julia Bartoli, Barbara Hendricks, puis Kathleen Battle, je l'ai entendue à Montréal. Moi, j'étais ravie.
Alors, on va entendre Kathleen Battle avec l'orchestre de l'église Saint-Luc de New York sous la direction de Leonard Slatkin.
Still some.
Vous continuez encore, France, à garder ce lien précieux quand même avec le chant lyrique.
Oui, j'en fais beaucoup moins. Comme, quand je sais d'avance que quelqu'un veut que je chante un mariage, ça, je dois vraiment me remettre en forme.
Quel est le point de convergence entre la chanson, dite populaire, et le chant lyrique? Parce que ça semble être deux mondes complètement différents, mais il y a sûrement des points de convergence entre
les deux. Bien, tu sais, c'est une technique là, vocale, que je dirais. Quand on chante classique, évidemment, la voix... C'est une technique qui fait que la voix est beaucoup plus de tête, hein, la voix monte. C'est vraiment une autre façon de d'articulation et de souffle qui fait qu'on chante sans effort et qu'on peut projeter. Là, moi, je suis une soprano, alors dans les bons aigus où je peux m'y mettre, alors il y a un chant sans effort qui sort. Chanter populaire, c'est vraiment comme parler fort, parler un peu plus fort, chanter. C'est comme parler.
Mais les deux peuvent traduire des émotions,
bien
en
sûr,
faire surgir.
Bien sûr. Alors, c'est les points communs, évidemment, bien, c'est le chant. On chante, on fait du beau, on fait de la beauté.
Et avec l'écriture, en poésie, Jérôme, on peut aussi rejoindre le cœur de l'homme par les mots, par la parole. Par la mise en scène aussi.
Oui, en fait, je dis souvent, la poésie, elle est faite d'un positif et d'un négatif. Qu'est-ce qui va produire soit une émotion ou du sens et de l'électricité? C'est justement ces deux éléments-là. Donc, il faut qu'il y ait une forme de contraste qui va produire un effet. Si je lis, par exemple, un court poème de Gilbert Langevin, on a ça ici. « Quelle voix saute sur ma tête? Attrape angoisse, j'avance par amour, des échasses de fièvre soutiennent mes pensées. » C'est très simple, tous les mots qui sont là, on peut les utiliser facilement, c'est le rapport qu'il y a entre ces mots-là qui crée une sorte de tension intérieure. Et cette tension-là, c'est l'émotion. Alors... c'est ce que France allait chercher dans sa musique. Elle libérait la tension intérieure du poème à travers sa musique, ses mélodies. On est dans un monde maintenant qui est comme pixelisé, hein? C'est-à-dire qu'on est dans le monde du beat, où la musique est comme séparée. La mélodie, c'est du continu. C'est peut-être une autre époque, mais c'est peut-être aussi le sens qu'on doit trouver maintenant, c'est-à-dire refaire du continu là où il n'y a plus que des interruptions du discontinu. Alors, la force mélodique de France, elle nous amène, je veux dire, à un monde où il y avait cette sorte de linéarité de la narration. On retrouve ce qui nous est raconté. Alors, et c'est ce qui fait que les chansons de l'album sont toutes différentes, mais qu'en même temps, il y a un fil conducteur.
Quand il dit, tu sais, parce que la mélodie lyrique, ça, c'est mélodique. Hein? Et c'est ça que j'aime. J'aime tellement ces mélodies. Et puis, la musique populaire, aujourd'hui, il ne faut pas être trop mélodique, là, parce que on dirait que ça passe moins bien. Il faut que ce soit... il dit un peu scandé, mais il ne faut pas que ce soit trop... Puis moi, j'aime ça. J'aime les mélodies.
Alors, je vous fais un petit cadeau. Récemment, Marie-Josée Longchamp, Sylvie Legault et Guy Boucher sont passés en studio pour nous faire quelques extraits d'un spectacle qui s'appelle « Parlez-moi encore ». Et ils ont fait aussi des chansons sur des textes de Gilbert Langevin. La prochaine, interprétée par Marie-Josée Longchamp et Guy Boucher à la guitare, c'est un texte de Gilbert Langevin, « Pour toi, l'amour ».
Pour toi, l'amour en robe rouge. L'amour en clé de sol, au ras du soleil, l'amour en tout. Pour toi, vers nous, l'amour aussi rare que l'or ou que l'air des villes mourantes. L'amour en croix, en cri, en voix. Toi, l'amour en robe rouge, l'amour en clé de sol, au ras du soleil, l'amour en tout. Pour toi vers nous, l'amour aussi rare que l'or ou que l'air des villes mourantes. L'amour en croix, en cri, en voix. J'étais si nue dans l'aurore fade qui nous colla son air fatal au ventre bleu, son air fatal au ventre bleu de nos désirs. J'avais vécu tant de nos êtres en un silence heureux de naître, avant de croire au ciel du cœur où ton beau corps sauve mon âme. Bleu, son air fatal au ventre bleu de nos désirs, de nos désirs.
Voyez, ça prend toutes sortes de couleurs. Si Gilbert vivait encore aujourd'hui, il serait peut-être étonné de tout ça.
Gilbert était lui-même assez étonnant. Hein? On lui demandait l'heure, il donnait sa montre, hein? Pour le geste. « Monsieur, avez-vous l'heure? » Oui, bien sûr, il enlève sa montre, il la donne au passant, et puis il s'en va. Simplement pour pouvoir raconter l'histoire ensuite.
Oui.
Alors, on est toujours dans cet étonnement.
Oui. Sylvie Legault nous racontait, entre autres, qu'un jour, elle devait faire une présentation, elle a son texte, puis il lui manque un mot. Pour compléter, elle ne trouve pas le mot. Alors, elle dit, Gilbert m'arrache le texte, puis il dit, je te reviens. Et puis, elle me dit, il revient au bout de 10 minutes. Il avait changé complètement mon dernier paragraphe au complet. Il avait fait de l'écriture très rapide. Elle dit, c'était impeccable. Et c'est ce que j'ai lu. Mm. Alors, elle me disait, Gilbert Langevin, c'était comme une lucidité excessive.
Mm. Oui.
C'est intéressant.
Le neveu du poète est un peu comme ça aussi,
eh oui.
Je trouve.
Extra-lucide.
une lucidité
excessive.
Oui.
Intéressant. Écoutez, vous avez parlé de la montre de Gilbert Langevin. Ça tombe bien parce qu'on va terminer cette première demi-heure avec une pièce qui a pour titre « L'heure exquise ». C'est interprété par une jeune femme du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mm-hmm. Marie-Nicole Lemieux, qui a un talent extraordinaire aussi, qui a même une carrière internationale, cette contralto. Elle est accompagnée par Daniel Blumenthal au piano pour nous interpréter tout cela. Et puis, on vous revient après la pause.